Laissez les enfants pleurer, ne tarissez pas leurs larmes. Elle lave et le désarme ce qui les fait chavirer. Laissez les enfants verser ces ruisseaux qui les apaisent et s'en vont noyer les braises de leurs chagrins insensés. Laissez-les. Empêcher que l'on réprime cette rosée légitime. Ils ont des fleurs à arroser. Laissez les enfants pleurer avant qu'on les abîme. Laissez les enfants rêver, ne les cassez pas d'avance. Donnez-leur au moins la chance d'apprendre un jour à voler. Laissez les enfants choisir des chemins qui vous dépassent. N'effacez jamais leurs traces, vous les verrez revenir. Laissez-les. Ne souffrez pas qu'on dédaigne la lumière qui les baigne. Ils ont des richesses à donner. Laissez les enfants rêver avant qu'on les éteigne. Laissez les enfants grandir, ne renforcez pas les cages, ne craignez pas les orages, ni les torrents à franchir. Laissez les enfants gagner le droit d'étendre leurs ailes dans la lumière nouvelle d'une vie à inventer. Laissez-les. Ils vont s'envoler ensemble, un même ciel les rassemble. Ils ont des sommets à gravir. Laissez les enfants grandir avant qu'ils nous ressemblent. Laissez-les.
Bonjour. Des cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter sur Radio Libertaire. Florence au micro et à la technique, aidée de
Luca.
Parle plus fort.
Luca.
Voilà, nous fêtons le 9e anniversaire de l'émission. Nous sommes le 21 décembre 2022, c'est le numéro 134 et l'émission a 9 ans. Et toi, Luca, tu as quel âge ?
7 ans et demi.
Voici le programme pour cette émission anniversaire. D'abord, Franck Courtois, le feuilleton sur le sport et le jeu. Là, c'est le deuxième épisode, le judo. Ensuite, nous aurons deux CD. Surtout, le plus, nous passerons le CD de San Severino, Il faut sauver Mamie la gratte. Ça vient de paraître en 2022. San Severino était venu dans l'émission de Marlène pour sa dernière émission mercredi dernier. Et je vous invite à le regarder sur le podcast. C'était pas mercredi, mais jeudi dernier, pardon. Ensuite, nous aurons un autre CD que nous passerons dans plusieurs émissions. Donc, il y aura moins de chansons. C'est Marion Roux, Fille ou garçon, des chansons pour se poser des questions. Là aussi, ça vient de sortir. Il y aura la revue Biscotto, numéro 108, On n'est pas béton, joue. Et si on a le temps, le numéro 107, La dette du Chili. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps. Il y aura trois albums. Nous sommes tous des féministes, dans le désordre, hein, de Chimamanda Ngozi Adichie, elle est nigériane. Illustration Leila Salabanka, édition Gallimard Jeunesse 2020. Nous aurons aussi J'atteste contre la barbarie d'Abdelatif Lahabi et Alain Serre, illustration Zahu, édition Rue du Monde 2015. Et Banksy, l'artiste qui grattait sur les murs et s'en fichait. C'est de Fausto Gilberti aux éditions Faïdon. Et évidemment, les illustrations sont de Banksy. Nous allons tout de suite mettre le premier titre de San Severino. En fait, c'est le titre numéro 3.
Vous, les grands, vous ne pensez du matin jusqu'au soir qu'au boulot et à l'argent. Si on faisait comme vous, mais que restera-t-il de nous? Même si on n'apprend
Évidemment, ce n'est pas San Severino qui chante tout seul dans ce disque. Ce disque s'appelle « Il faut sauver Mamie la gratte » et c'est lui qui a écrit, lu et puis qui chante dans la plupart des chansons, mais il a des invités. C'est aux éditions Margaux. Les illustrations sont de Jeff Pourquier et c'est un grand livre et c'est vraiment un régal. Mamie la gratte a des ennuis, elle doit quitter sa boutique d'instruments de musique car sur son emplacement va être construite une usine de shampoing qui pique odieusement les yeux. Heureusement, Camille et sa copine Suzy ont trouvé une super idée pour l'aider dans cette aventure rock'n'roll. Et évidemment, le premier titre n'était pas rock'n'roll, mais il y a plusieurs styles de musique. Une fillette coiffée d'une chaussette qui ne sont pas très bons tente de cambrioler une banque. Une corneille donne son avis sur tout et des tortues volantes à la langue bien pendue veillent sur un mystérieux trésor de pirates. Une histoire folle et terriblement drôle, imaginée, contée et mise en musique par San Severino. Et c'est aux éditions Margaux et ça vaut 23 euros. Et bon, ben c'est mérité parce que c'est un très très beau livre. Et maintenant, tout de suite, Franck Courtois. Et là, ça va être l'ordinateur.
Je suis partie d'un bout de la baignoire à la nage. Et j'ai nagé. Et ce soir, quand je suis arrivée de l'autre côté de la baignoire, Bah dis donc, il y avait plus d'eau dans la baignoire. Alors, j'étais obligé de prendre une douche.
Au commencement, il y avait le jeu. On s'amusait comme des petits fous au judo. On jouait au crocodile, à l'épervier, au sumo. Mais celui que je préférais, c'était le jeu du chasseur de tortues. Le chasseur était le seul autorisé à être debout et son objectif était de retourner les tortues alors à quatre pattes. Pour cela, le chasseur devait supprimer des appuis, utiliser le poids de son corps et faire levier pour le contrôler sur le dos et faire mine de lui manger le ventre. Entre 7 et 10 ans, on jouait, on se défoulait, on apprenait à l'insu de notre plein gré, comme dirait Richard Virenque, grâce notamment à la pédagogie de la découverte, qui consiste, pour l'éducateur, à mettre en place des situations motrices afin que les enfants explorent et trouvent par eux-mêmes des solutions. C'était juste génial. Et à un moment donné, ça bascule. Le judo s'arrête d'être un jeu et l'enjeu prend le dessus sur le jeu. Progressivement, les phases d'exploration vont diminuer. Les entraînements vont s'agrémenter de renforcements musculaires, de démonstrations techniques et de passage de grade sérieux. J'aimais pas les passages de grade. On aurait dit l'école, avec le prof derrière son bureau qui nous demandait de faire des techniques en japonais pour nous évaluer et nous attribuer ou pas une nouvelle ceinture de couleur. Moi, j'étais venu pour jouer. D'ailleurs, le système de ceinture de couleur a été créé par les Occidentaux afin de symboliser la progression de l'élève. C'est une sorte de carotte récompense qui vient sanctionner l'acquisition des apprentissages, un peu comme le passage de classe ou les notes dans le système scolaire. Alors qu'au Japon, on est ceinture blanche pendant de longues années, puis noire à partir d'un certain niveau d'expertise. Il n'y a donc pas de signe distinctif entre les pratiquants, ce qui permet à chacun chacune d'avancer à son rythme et au gré de ses envies. Intéressant. Il est clair qu'être valorisé et s'amuser sont les deux locomotives qui animent l'enfant dans sa pratique du sport. Au judo, dès 10 ans, la compétition devient le passage obligé, avec plus ou moins de réussite selon les pratiquants, qui n'ont plus beaucoup d'alternatives. Mais me concernant, j'adorais le combat et la compétition, alors que d'autres camarades préféraient la technique et les passages de grade. À 12 ans, alors que beaucoup de jeunes désertent les clubs de judo, je commence à remporter des médailles, des sélections qui me valorisent, me rendent fier et me motivent à redoubler d'efforts. En parallèle, mon club, l'US Orléans Judo, participe et remporte la Coupe d'Europe des clubs. On ne parle que de ça avec mes camarades. Nous sommes invités à faire des démonstrations avant le spectacle et à ce moment-là, je rêve secrètement de faire partie un jour de l'équipe. Mes idoles sont Fabien Canu, double champion du monde, et Marc-Alexandre, champion olympique. D'ailleurs, la fédération ne s'y trompe pas. Et pour attirer toujours plus de jeunes à faire de la compétition, elle organise régulièrement, un peu partout en France, une subtile animation appelée les mercredis de l'équipe de France. Où une championne, Lucie Decosse, ou un champion, Teddy Riner, va animer un entraînement en présence d'autres membres de l'équipe nationale, avec qui les jeunes vont pouvoir combattre, rigoler, échanger, signer des autographes. Une belle campagne de communication en présence des médias, des sponsors et des élus locaux, qui va faire scintiller les yeux des petits comme des plus grands, et amener, en douceur, les jeunes à vouloir s'identifier à leurs aînés, aux champions. Avant de continuer à parler de judo et de compétition, il me paraît important de distinguer et de définir ce qu'on entend par combat. Il existe deux types de combat selon si on est à l'entraînement ou en compétition. Le combat à l'entraînement est appelé randori, à ne pas confondre avec le tendori, qui est un mélange d'épices indiennes. Oui, c'est un moment où les pratiquants s'exercent et mettent en pratique ce que l'on a appris, mais en situation d'opposition. Pendant le randori, on devrait accepter de chuter et permettre à son partenaire de s'exprimer. Le plus fort se met au niveau du plus faible. Il n'y a pas d'arbitrage. D'ailleurs, à la fin du randori, il n'y a pas de vainqueur ni de perdant normalement. Le combat en compétition s'appelle le shiai, à ne pas confondre avec le chai, qui est un thé indien encore. Attention, l'esprit n'est plus le même. On ne doit plus tomber, chercher à gagner à tout prix, par ippon ou pas. L'idée est de se mesurer à l'autre en exprimant toutes ses qualités techniques, physiques et morales, mais aussi en empêchant cet autre, l'adversaire, d'exprimer les siennes. Nous ne sommes plus dans la coopération ou l'entraide, mais dans l'opposition absolue à la recherche d'une classification et hiérarchisation des individus entre eux.
Les gens me disent, et toi t'es qui ? Je dis c'est moi, et vous êtes qui? T'es avec nous ou avec lui? Moi je suis moi, et ça me suffit. Ça se voit quoi? Qui sont pas moi? Je me demande un peu, si je suis pas eux, c'est quoi les gens? C'est fait comment? Est-ce que j'en suis? Peut-être que non. Choisis ton camp ou déguerpis, les gens c'est nous, qui qu'a compris. Soit tu fous le camp, soit tu choisis, ou bien c'est nous, ou bien c'est lui. Y a les haineux, y a les gentils, les généreux et les abrutis. Allez les gens.
Des cailloux dans l'engrenage, l'enfance, poil à gratter, émission anniversaire, la 134e pour les 9 ans d'émission. Et bien maintenant, Luca va vous lire « J'atteste contre la barbarie » d'Abdelatif Lahabi, illustré par Zahu avec un dossier sur le terrorisme par Alain Serre, et c'est édité par Rue du Monde. C'était en 2015. Vas-y, Lucas, c'est toi qui as envie de lire. Alors, la quatrième de couverture.
Mais... J'atteste contre la barbarie. Le poète Abdelatif Lahabi offre ses mots d'espérance aux enfants. Zo, il glisse ses pinceaux gorgés d'humanité et pour permettre aux jeunes lecteurs de dépasser les effroyables événements de 2015 de Charlie Hebdo. Au Bataclan de l'hyper cachère, aux autres endroits du monde visés par les terroristes, à l'Inser réunit pour eux éléments de réélection.
De réflexion.
Ah oui, réflexion. Et documents photographiques.
Alors là, il faut avouer qu'il ne l'avait pas lu avant et c'est direct. Voici maintenant le texte.
J'atteste la barbarie.
Contre la barbarie. Oui, j'atteste. J'atteste.
J'atteste contre la barbarie. J'atteste qu'il y a un être humain que celui-ci dont le cœur tremble d'amour. Pour tous ses frères en humanité. Celui qui désire ardemment, plus pour eux que pour lui-même. Liberté, paix, dignité. Celui qui considère que la vie est encore plus sacrée que ses croyances et ses dignités et ses divinités. J'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui qui combat sans relâche la haine en lui et autour de lui. Celui qui, dès qu'il ouvre les yeux au matin, se pose la question : que vais-je faire aujourd'hui pour ne pas perdre ma qualité et ma fierté d'être homme ? Abdelatif Labi, 10 janvier 2015. Après, des clés pour en discuter ensemble.
Alors, c'est sur le terrorisme, les attentats, l'avenir. Pourquoi a-t-il écrit ce poème ? À cause des attentats qui ont été commis contre Charlie Hebdo. C'était avant le Bataclan. Et c'est Abdelatif Labi qui est un poète d'origine marocaine. Il est né en 1942 à Fès, au Maroc. Il a eu le prix Goncourt de la poésie en 2009, mais ce n'est pas à cause des prix. C'est vraiment un très, très beau poète. Et il a connu la prison au Maroc pendant 8 ans, dans les années 70, parce que sa parole libre dérangeait le pouvoir royal de ce pays. Et il revendique actuellement un double attachement à la culture arabe et aux valeurs de la République française. Et les crimes terroristes ont tracé pour lui comme une blessure. Il fallait qu'il écrive ce poème. Et donc, il y a eu les attentats de janvier 2015, ensuite la folie meurtrière du 13 novembre 2015. Et ça, c'est de longues pages que je ne vous lirai pas, mais qui sont vraiment très intéressantes. Ensuite, il parle de laïcité. C'est le dossier documentaire d'Alain Serre. Voilà, je ne vais pas tout lire, ça serait trop long, mais je conseille ce livre d'Abdelatif Labi, Zahu. Alors, Luca veut dire quelque chose.
Et en plus, si vous voulez l'acheter, il faut vous dire... Enfin, on ne va pas vous cacher la partie documentaire.
Ah oui.
La partie.
Alors, il vaut 14 euros si vous voulez l'acheter. Nous allons passer un deuxième titre de San Severino. Et cette fois, c'est lui qui va chanter « Je suis Mamie Lagrate ». C'est le titre de... le titre éponyme...
Chapitre 1. Mamie Lagrate a des ennuis. Ce matin, Camille marche vers la boutique d'instruments de musique de Mamie Lagrate. C'est un endroit où elle va souvent pour acheter des ukulélés, des maracas, des saz, des guembrés, en gros que des instruments avec des noms imprononçables. En s'approchant, Camille aperçoit Mamie Lagrate en pleine crise de larmes. Imo, le vautour et patron de l'agence immobilière, est en train de lui remettre un ignoble avis d'expulsion. Un avis d'expulsion, c'est quand le propriétaire de ta maison t'envoie un courrier officiel qui signifie que tu dois partir. Un papier assez affreux, quoi. À ce moment-là, Mamie Lagrate ne sait plus quoi faire d'autre que pleurer et pleurer encore. Soudain, Camille a une idée. Elle va trouver une deuxième idée pour que Mamie Lagrate puisse garder sa boutique. Oui, mais laquelle ?
Musique pour les gens. Le soir, le rideau de fer baissé. Quand j'ai fermé ma boutique, j'étudie la rythmique, le classique, la non progression harmonique, la musique tonale, le rock'n'roll celtique, la flûte de pan, le cyberpunk allemand et tout ce qui en dépend. Je suis Mamie Lagrate, vendeuse d'instruments.
la musique pour les gens. Je suis Mamie la gratte, vendeuse d'instruments, qui souffle bien notre gratte, la musique pour les gens. Le soir, le rideau de fer baissé, quand j'ai fermé ma boutique, j'étudie le tango, le passo, le wifi, dans l'électronique, l'Indian Reservation Blues, les Indiens d'Amérique, la flûte des Andes, dont bien des choses descendent, tu vois la liste est grande. Oh, je suis Mamie la gratte.
Ce disque Mamie la gratte, écrit par San Severino, il n'est pas tout seul à chanter. Il ne chante pas sur ce titre-là, c'est André Fernandez. Sur le « Que restera-t-il de nous ?», c'était Tina Rose. Le commissaire, la justice, si on a le temps de le passer, ça sera Céline Richard. Et lui, il chante sur les autres titres. Et bien maintenant, nous allons lire un petit texte, un extrait de la revue Biscotto, la revue Biscotto du mois de le numéro 108. C'est récent. Je suis en train de chercher, j'aurais dû le regarder avant. C'est octobre 2022. C'est un journal comme pour les grands en plus marron. Et ça vaut 5 euros. Et là, je n'ai pas l'habitude de lire les textes sur les jeux vidéo. Mais je trouve que celui-là est plutôt intéressant. Il y a une très bonne rubrique de Hervé Joly. On n'est pas bête, on joue. Je ne suis jamais très à l'aise au milieu d'un cimetière. Ça me fait trembler de peur. En jouant à Ico de Fumito Ueda, je crois que j'ai découvert quelque chose qui m'aide un peu à me sentir mieux. Même si d'abord, ça commence mal. Je suis un petit enfant un peu différent avec des cornes sur la tête. On me fait prisonnier puis on m'enferme dans un cercueil. Au secours, c'est horrible! Heureusement, j'arrive à me libérer, mais là, c'est l'angoisse. Il fait noir, je suis tout seul au milieu d'une sorte de cimetière dans un château qui fait peur. En explorant, je tombe sur un autre enfant, une autre enfant prise au piège. Elle aussi est un peu différente, elle est complètement lumineuse. Je la libère, on se fait attaquer par des fantômes sombres, je la protège. Les fantômes ont l'air d'avoir peur de moi, mais ils essayent de l'attraper, elle. La manette vibre. Je découvre qu'en restant appuyé sur un bouton, on peut se tenir la main. On court à travers les salles, on pousse les rochers et les leviers, on grimpe des échelles et des cordes, on se tient la main autant que possible. On finit par trouver une porte vers l'extérieur, il fait jour, ça va mieux. Les monstres sont toujours là, mais on se sent moins fragile. Mes doigts appuient fermement sur le bouton, on reste main dans la main. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce jeu Ico, explique Hervé Joly, l'auteur de la rubrique. Mais ce qui me marque le plus, c'est la façon dont on arrive à surpasser la peur. Se tenir la main, affronter les épreuves ensemble, s'entraider. Alors maintenant, dans les cimetières, je tiens la main des gens que j'aime parce que ça repousse un peu les fantômes, ça nous aide à envisager le futur ensemble et à se rappeler qu'on n'est plus tout seul ou toute seule. Voilà, c'est la fin de la rubrique. Il y a quand même je ferai quand même une réflexion. C'est le garçon qui la protège. fermez la parenthèse. Eh bien, maintenant, un autre titre de San Severino, extrait de Mamie la gratte. Gagner les sous, là c'est lui qui va chanter et c'est le titre numéro 15.
Chapitre 11. Un affreux vautour nommé Imo. Rappelez-vous, je vous en ai parlé au début de l'histoire. Imo, donc, est un vautour qui possède une infâme agence immobilière.
Voilà, on s'arrête là avec cette chanson. Je ne vous diffuserai que les parties chansons et encore pas toutes de, de cette délicieuse histoire, Mamie la Gratte, par San Severino. Maintenant, nous allons passer à un livre en lecture partagée avec Luca. Banksy, l'artiste qui graffait sur les murs et s'en fichait. Question, gagner des sous. Voilà pourquoi j'ai diffusé la chanson Gagner des sous juste avant, parce qu'on peut dire que Banksy, il a réussi. C'est de Fausto Gilberti, le texte, aux éditions Faïdon. Ça vaut 15 euros, mais je ne sais pas l'année, ça a été caché. Banksy peint sur les murs et sur les immeubles un peu partout dans le monde sans demander la permission et il s'en fiche. Ses graffitis rendent l'art accessible à tous et encouragent ceux qui les regardent à s'interroger sur des sujets importants. Mais personne n'a réussi à élucider le mystère. Qui est Banksy ? Voici l'histoire d'un des plus célèbres artistes contemporains, sans doute aussi l'un des plus controversés au monde. Ça date de 2021, voilà, j'avais oublié. Vas-y, Luca, tu peux commencer.
Alors,
non.
Vas-y. On me connaît sous le nom de Banksy, mais ce n'est pas mon vrai nom. C'est le surnom que je me suis choisi. Personne ne sait que je suis vraiment ce qui m'évite des tas d'embêtements.
Mais pas de panique, je ne suis pas un voleur, je suis un artiste. Je peins dans les rues, sur les murs, sous les ponts, sur les façades des immeubles. Ce qui me plaît, c'est de peindre là où personne ne s'y attend. Mon art, c'est le graffiti. Je le pratique sans permission et je m'en fiche.
Je travaille avec des bombes de peinture et des pochoirs. J'ai peint des signes de...
Des singes
Des singes, des policiers, des enfants, des soldats, des pandas et même la famille royale d'Angleterre. Mais ce que je préfère peindre, ce sont les rats des rats.
Les rats ? Oui, 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 tu as bien compris, les rats. Les rats sont partout et nulle part à la fois. Ils hantent les villes et sèment la panique. Tu sais quoi ? Ils sont un peu comme moi. Une fois, j'ai fait entrer 200 rats dans une galerie d'art. Tu imagines le résultat ?
J'ai peint partout dans tout le monde. J'aime créer des images qui ont du sens, qui transmettent un message. Mes images dénoncent la guerre, la pauvreté ou la pollution. Et bien souvent, elles disent que j'en ai assez de la politique. Un jour, j'ai même graffé sur un mur gardé par des soldats. armés de fusils. Par chance, ces soldats appréciaient mon art.
Mais je ne peins pas que sur les murs des villes. Un jour, à la campagne, j'ai eu envie de peindre. Comme il n'y avait pas de mur, j'ai peint sur des vaches et sur des moutons. Mais rassure-toi, j'ai utilisé de la peinture spéciale qui ne leur faisait aucun mal.
Souvent, mes graffitis sont recouverts ou détruits. Parfois, les gens essayent même de les prendre, quitte à emporter le mur sur lequel ils se trouvent. Alors moi, je me suis mis à peindre sur les toiles, mais je détestais l'idée de vendre mon art à des collectionneurs prétentieux dont le seul but était d'accrocher mes tableaux au-dessus de leur cheminée. Je voulais que tout le monde puisse admirer librement mon travail comme dans un musée. Seulement voilà, la plupart des artistes ne sont exposés dans les musées qu'après leur mort. Alors j'ai décidé d'entrer au musée de ma façon.
J'ai mis un grand manteau et un chapeau, un faux nez et une fausse barbe pour ne pas être reconnue. Puis je me suis faufilée dans le British Museum de Londres et j'ai accroché une de mes toiles sans rien demander à personne. Elle n'a été découverte que 3 jours plus tard. J'ai recommencé dans d'autres grands musées. J'ai ainsi accroché mes œuvres au musée du Louvre à Paris et au Metropolitan Museum de New York. Puis j'ai décidé d'organiser une véritable exposition au musée de Bristol en Angleterre, avec la permission cette fois.
C'était une exposition incroyable et amusante aussi. Enfin, qu'est-ce qu'on m'a dit parce que je n'y étais pas, bien sûr. J'ai exposé des sculptures comme des nuggets, des poulets animés, picorant du ketchup, des saucisses dansantes, des bâtonnets de poisson pané nageant dans un aquarium, une peau de léopard qui faisait la sieste dans un arbre et un petit lapin qui se limait les ongles. J'ai caché mes tableaux parmi les autres toiles du musée. Il fallait donc ouvrir l'œil pour déchaîner les dénicher les Banksy.
J'aime voir les réactions du public à mes œuvres. Un jour, j'ai fabriqué de faux ailerons de requin que j'ai plongés dans le lac d'un grand jardin public de Londres. Les canards n'ont pas semblé gênés.
Une autre fois à New York, j'ai rempli un camion d'animaux en peluche, il criait quand les gens passaient parce qu'il allait être transformé en steak et en hamburger. Tout le monde en avait parlé dans la ville.
Je n'aime pas l'idée que mes œuvres puissent valoir beaucoup d'argent. Un jour, quand une dame très riche a acheté un de mes tableaux pour 1,4 million de dollars, une alarme s'est déclenchée et la toile s'est autodétruite. J'avais caché un broyeur dans le cadre. J'aurais bien aimé voir la tête de la dame.
Un jour, avec 58 amis artistes, j'ai créé un faux parc d'attractions dans une ville près de la mer en Angleterre.
Des employés grognons, un manège terrifiant, un château de princesse en ruine et des jeux impossibles à faire. Je l'ai appelé « Dismaland ». Ce qui donne en français quelque chose comme « dit nuland ». Tu vois pourquoi c'est ça, un parc d'attractions nul. Mais les gens ont bien ri quand même.
Comme je te l'ai déjà dit, mes œuvres, ça, vendent très cher. Mais je n'aime pas ça. Alors un jour, dans la rue, j'ai installé un stand où je où je vendais mes tableaux à 60 dollars. Beaucoup de passants étaient persuadés qu'à ce prix-là, ils étaient faux. Je les ai vendus que 8 toiles ce jour-là. Quand les gens ont découvert qu'il avait acheté un vrai Banksy, ils ont sauté de joie. Les autres, par contre, n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer.
Tu sais, j'ai fait beaucoup de choses, mais je ne pensais pas devenir si célèbre. Des millions de gens connaissent mon travail, mais personne ne sait vraiment qui je suis, même pas mes parents. Nombreux sont ceux qui essayent de me démasquer. Alors, qui suis-je ? Certains pensent que je suis une femme débordée qui graffe entre deux activités.
D'autres pensent que je suis un musicien qui entre l'écriture d'une chanson et un concert qui trouve le temps d'être un artiste de rue.
D'autres encore pensent que Banksy n'est pas une seule personne, mais un collectif d'artistes.
Il y a des tas de théories à mon sujet, dont certains un peu folles.
Mais une chose est sûre, j'ai hâte que quelqu'un finisse par deviner ma véritable identité, parce que parfois, derrière le nom de Banksy, il m'arrive d'oublier qui je suis vraiment.
Si tu le découvres, tu me diras, promis.
Alors, pour en savoir plus sur Banksy, c'est l'un des artistes contemporains les plus connus et sans doute les plus controversés. Son identité réelle reste un secret bien gardé. Même si personne n'en est certain à 100%, on suppose qu'il est né à Bristol en Angleterre vers 1974. Ses premières œuvres sont apparues sur les murs de Bristol, de Londres et des alentours pendant les années 90. Il utilise des techniques propres au graffiti, des bombes de peinture et des pochoirs, ce qui lui a permis de ne jamais se faire prendre. Il a peint des graffitis dans le monde entier. On reconnaît ses œuvres à leur humour décalé et leur message engagé, en particulier en faveur de l'environnement et contre le pouvoir. En plus de ses graffitis sur les murs, il a peint des toiles, créé des installations et des performances. Certains collectionneurs sont prêts à dépenser des fortunes pour posséder un tableau de Banksy, mais d'autres voient son travail comme du vandalisme pur et simple. Quoi qu'il en soit, le fait qu'il peigne dans la rue et les lieux publics permet à tout le monde d'avoir accès à ses œuvres. Aujourd'hui encore, il continue à faire des graffitis un peu partout, nourrissant les théories et les débats et inspirant de nombreuses personnes à travers le monde. Et là, il y a un petit texte sur Fausto Gilberti, qui est un peintre, illustrateur et auteur de livres pour enfants. Il est italien. Eh bien, merci Luca, qui a lu en alternance avec moi. Il faut savoir que c'est pareil, il découvre le livre, je ne lui ai pas montré avant. Nous allons continuer avec San Severino, le numéro 12, et là, c'est la commissaire, la justice.
Chapitre 8. La commissaire aimerait mieux être en vacances. Au même moment, en ville, ayant entendu dire qu'une petite fille avec une chaussette sur la tête et une corneille était entrée dans une banque en hurlant « C'est un hold-up ! C'est un hold-up !» et en était ressortie immédiatement en courant et en criant comme un putois, Justine la justice, la commissaire de police, commence à mener son enquête. Ce dont elle n'a pas très envie, car elle vient de se casser la jambe en faisant du vélo et préférerait partir en vacances plutôt que d'aller travailler.
J'ai un sens aiguisé de l'observation. Je résous des enquêtes avec mon intuition. Rien qu'en lisant le nom des témoins et de l'inculpé. Les perquisitions, ça je sais faire. C'est facile pour une commissaire de police brillante, fine et claire et organisée. sais pourquoi chaque fois que les gens m'attendent, je me casse la jambe. Dès qu'on a besoin de moi, je me fais mal au bras. Les inspecteurs me surnomment la justice, ou flatteur pour une commissaire de police. Que ferais-je sans avoir un tant soit peu de vanité? Mais pourquoi chaque fois que les gens m'attendent, je me casse la jambe? Dès qu'on a besoin de moi, je me fais mal au bras.
La commissaire interroge ses indicateurs. Oui.
Bon, on arrête dans l'histoire. C'est donc San Severino, histoire de Mamie Lagrac. C'est un petit roman policier. Et nous allons passer à une lecture partagée de Chimamanda Ngozi Adichie. Nous sommes tous des féministes, très joliment illustrée par Leir Salaberria. C'est chez Gallimard Jeunesse. Ça vaut 12 euros. J'aimerais que nous rêvions à un monde différent et que nous commencions à le préparer, un monde plus juste, un monde où les hommes et les femmes seront plus heureux, plus honnêtes envers eux-mêmes. Voici le point de départ. Nous devons élever nos filles autrement et aussi nos garçons.
Le célèbre manifeste de Chimamanda Ngozi Adichie, adapté pour la jeunesse, l'écrivaine nigériane y aborde la question de l'égalité des sexes avec lucidité et humour au travers de son expérience et d'anecdotes de son enfance, un texte à partager avec tout pour semer des à présent pour les graines du changement.
Eh bien, nous allons faire la lecture partagée. Et c'est une petite fille qui parle. Okolama était mon meilleur ami. Il était drôle et intelligent. Il portait des sandiags au bout pointu. Okolama habitait ma rue et veillait sur moi comme un grand frère. On riait beaucoup, on pouvait parler de tout.
Okolama est la première personne à m'avoir appelée féministe.
J'avais environ 14 ans. On était chez lui et on se chamaillait à propos des derniers livres qu'on avait lus. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit
« Tu es une féministe, tu sais ?»
Je ne connaissais pas ce mot, mais je ne voulais surtout pas qu'Okolama s'en aperçoive. Alors j'ai changé de sujet, j'ai reparlé de mes livres, mais dès que je suis rentrée à la maison, j'ai couru chercher le mot « féministe » dans le dictionnaire. Et maintenant, faisons un bond dans le temps. En 2003, je suis allée au Nigeria pour parler d'un livre que j'ai écrit, L'hibiscus pourpre. J'y ai rencontré un journaliste très aimable qui m'a regardée tristement et m'a dit que mon roman était un livre féministe. Il m'a ensuite vivement conseillé de ne jamais dire que j'étais féministe parce que les féministes sont des femmes malheureuses qui ne trouvent pas de mari.
À partir de ce jour-là, j'ai décidé de dire que j'étais une féministe heureuse.
Quelque temps après, une étudiante nigériane m'a expliqué que le féminisme ne faisait pas partie de la culture africaine. Pour elle, je me sentais féministe uniquement parce que je lisais des livres venus d'Europe. À partir de ce jour-là, j'ai décidé de dire que j'étais une féministe africaine heureuse. Mais un peu plus tard, un très bon ami m'a dit qu'être féministe voulait dire détester les hommes.
À partir de ce jour-là, j'ai décidé de dire que j'étais une féministe africaine heureuse qui ne déteste pas les hommes.
J'ai même décidé d'être une féministe africaine, heureuse, qui ne déteste pas les hommes et qui aime mettre du brillant à lèvres et des talons hauts pour son plaisir, non pour séduire les hommes. Je plaisante bien sûr, mais ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on dit à quelqu'un « je suis féministe », de nombreuses idées négatives apparaissent dans son esprit. On déteste les hommes, on déteste les soutiens-gorges, on déteste la culture africaine, on pense que les femmes devraient commander, on ne se maquille pas, on ne s'épile pas, on est toujours en colère, on n'a aucun sens de l'humour, on ne met pas de déodorant. Voici une histoire de mon enfance.
C'était à l'école primaire, la maîtresse nous avait donné un devoir et nous avait dit que l'élève qui obtiendrait la meilleure note deviendrait le chef de classe.
C'était un rôle important. Le chef de classe relevait les noms des élèves turbulents et il déambulait dans la classe en brandissant une baguette. Bien sûr, il n'avait pas le droit de s'en servir. J'avais 9 ans et je trouvais ça vraiment excitant. J'avais très envie d'être chef de classe et j'ai obtenu la meilleure note.
Mais à ma grande surprise, la maîtresse a déclaré que le chef de classe devait être un garçon. Pour elle, c'était évidemment, elle avait donc oublié de le préciser.
C'était un garçon qui avait eu la deuxième meilleure note et c'est lui qui serait le chef de classe. Le plus intéressant, c'est que cet élève était très doux de nature. Parcourir la salle de classe armée d'une baguette ne l'intéressait pas du tout. Moi, en revanche, j'en mourais d'envie. Mais j'étais une fille et lui un garçon. Et il est devenu chef de classe. Je n'ai jamais oublié cet épisode.
Si nous agissons toujours de la même manière, si nous voyons toujours les mêmes comportements alors que nous finissions par intégrer que tout ceci est normal.
Si les chefs de classe sont toujours des garçons, nous finissons par penser, même inconsciemment, que seuls les garçons peuvent être des chefs de classe. Si nous ne voyons que des hommes à la tête des entreprises, nous finissons par trouver naturel que seuls les hommes puissent être chefs d'entreprise. Je fais souvent l'erreur de penser que ce qui est évident pour moi l'est aussi pour les autres. Voici un exemple. Un jour, mon cher ami Louis, qui est pourtant un homme brillant et très ouvert, m'a demandé
« Pourquoi ?» Tu dis que les choses sont différentes et plus difficiles pour les femmes. C'était peut-être vrai dans le passé, mais plus maintenant. Tout va bien pour les femmes désormais.
Je ne comprenais pas que Louis ne puisse pas voir ce qui me paraissait évident. J'adore rentrer chez moi au Nigeria et surtout à Lagos, la plus grande ville du pays. Le soir, quand il fait moins chaud, j'aime dîner au restaurant avec mes amis ou ma famille. Comme dans la plupart des grandes villes, garer sa voiture à Lagos est très difficile. Alors, un nouveau métier s'est créé. Des jeunes gens vous proposent de chercher une place pour vous et surveillent votre voiture jusqu'à votre retour. C'est ainsi qu'un soir, j'ai décidé de donner un pourboire à un homme qui venait de nous trouver une place. Enchanté et reconnaissant, il a accepté l'argent que je lui donnais, mais c'est à lui qu'il a lancé « Merci, monsieur !» Mon ami m'a jeté un regard étonné. « Pourquoi me remercie-t-il ? Ce n'est pas moi qui lui ai donné un pourboire !»
L'instant d'après, j'ai vu dans son regard qu'il avait compris. L'homme pensait que l'argent que j'avais donné était à Louis parce que Louis est un homme.
Les hommes et les femmes sont différents, nos hormones sont différentes, nos sexes sont différents et nous n'avons pas non plus les mêmes capacités biologiques. Les femmes peuvent, par exemple, mettre au monde des enfants, pas les hommes. Les hommes ont aussi plus de testostérone, ce qui les rend plus forts physiquement que les femmes, même s'il existe des exceptions.
Dans le monde, les femmes sont légèrement plus nombreuses que les hommes. Et pourtant, ce sont les hommes qui ont la majorité des métiers importants au prestigieux.
Il y a 1000 ans, c'était tout à fait logique. Les hommes dirigeaient, mais à cette époque, il fallait être fort physiquement pour survivre.
Mais le monde d'aujourd'hui est très différent. Pour être le chef, il ne faut plus être le plus fort. Il faut être le plus intelligent, le plus cultivé, le plus créatif ou le plus inventif. Des qualités qui n'ont rien à voir avec les hormones.
Une femme est tout aussi intelligente, cultivée, créative et inventive qu'un homme. Nous avons évolué, mais nos idées, elles n'ont pas beaucoup changé.
Allez, gosse, je ne peux pas entrer seule dans de nombreux bars et boîtes de nuit. L'accès est interdit aux femmes si elles ne sont pas accompagnées par un homme. Certains de mes amis hommes entrent souvent dans des clubs avec de parfaites inconnues. Celles-ci leur demandent de l'aide pour entrer. À chaque fois que je vais dans un restaurant nigérian avec un homme, le serveur lui souhaite la bienvenue à lui et fait comme si je n'existais pas. La société lui a appris qu'un homme est plus important qu'une femme.
Je sais que ces serveurs n'ont pas de mauvaises intentions, mais à chaque fois qu'ils m'ignorent, je me sens invisible et ça me met très en colère. J'ai envie de leur dire que je suis un être humain comme eux et que je le mérite. Moi aussi, qu'on me souhaite la bienvenue.
Parfois, ce sont les plus petites choses qui nous blessent le plus. J'ai écrit un article dans lequel je racontais ma vie de jeune fille à Lagos. Un jour, quelqu'un m'a dit que j'avais exprimé beaucoup de colère dans ce texte. Dans sa bouche, c'était un vrai reproche. Pourtant, je maintiens ce que j'ai écrit. Bien sûr qu'il y avait de la colère dans mon article. Aujourd'hui, la manière dont sont traitées les filles est totalement injuste. Je suis en colère. Nous devrions tous être en colère.
Dans l'histoire de l'humanité, la colère est très souvent amenée des changements positifs. Et puis, je ne ressemble pas uniquement de la colère. Je ressens aussi de l'espoir parce que je crois profondément que les êtres humains peuvent changer et s'améliorer.
En repensant à ce que m'avait dit cette personne, j'ai compris ce qu'elle voulait vraiment dire. La colère est une émotion que les gens n'aiment pas voir chez une femme.
Si vous êtes une femme, vous n'êtes pas censée exprimer votre colère parce que cela vous rend menaçante.
Menaçante, oui. Un jour, une de mes amies américaines a remplacé un homme connu dans son travail pour être dur et ambitieux. Au bout de quelques semaines, mon amie a sanctionné un employé qui avait fait une faute grave. Celui-ci s'est plaint à la direction. Pour lui, mon amie était agressive et il était difficile de travailler avec elle. Il a même expliqué qu'il s'attendait, tout comme ses collègues, à ce qu'elle apporte une touche féminine dans son travail.
Aucun d'eux ne s'est rendu compte que mon amie agissait exactement comme l'homme qu'elle avait remplacé.
Une autre de mes amies américaines m'a raconté que lors d'une réunion de travail, elle s'était sentie totalement rabaissée. Son patron n'avait pas tenu compte de ses remarques et juste après, il avait complimenté un collègue homme qui avait dit à peu près la même chose. Elle avait eu envie de se plaindre, de demander à son patron de s'expliquer, mais elle ne l'avait pas fait. À la fin de la réunion, elle s'était précipitée aux toilettes pour pleurer. Puis, elle m'avait appelée pour tout me raconter. Si elle n'a rien dit sur le moment, c'est parce qu'elle ne voulait pas avoir l'air agressif. Alors elle a tout gardé pour elle.
Ce qui me frappe chez elle est aussi chez beaucoup de mes amis, c'est leur désir d'être aimés à tout prix. On dirait qu'elles ont été élevées dans le but de plaire aux autres, que cela implique de ne pas montrer leur colère, de ne pas être agressif si elles ne sont pas d'accord, de ne pas dire le trop fort.
Nous passons un temps fou à apprendre à nos filles à se préoccuper de l'opinion que les garçons ont d'elles. Et nous ne faisons pas la même chose pour nos garçons. Nous ne disons pas à nos fils qu'il est important d'être aimable et aimé.
Nous passons un temps fou à répéter à nos filles qu'elles ne peuvent pas se mettre en colère ni être agressives ou dures, ce qui est déjà une erreur. Mais en plus, nous faisons totalement l'inverse qu'avec notre fille.
Avec nos fils.
Qu'avec nos fils. Dans l'appareil, car nous les excusons et même nous les félicitons.
S'il y a un nombre incroyable de livres et d'articles de mécanismes qui expliquent aux femmes comment plaire aux hommes, comment se comporter et quelles sont les choses à éviter, on trouve beaucoup moins d'ouvrages qui expliquent aux hommes comment faire plaisir aux femmes. Je donne des cours d'écriture à Lagos. Un jour, une élève m'a fait cette confidence. Une de ses amies lui avait conseillé de ne pas écouter mon discours féministe parce que mes idées pouvaient ruiner son mariage. On menace souvent les femmes de cela. Leur mariage pourrait être brisé. Elles pourraient se retrouver seules et ne jamais rencontrer l'amour. Il est beaucoup plus rare que l'on dise la même chose à un homme.
Partout dans le monde, la question de l'égalité des sexes est cruciale. Aujourd'hui, j'aimerais que nous rêvions à un monde différent et que nous commencions alors à le préparer d'un monde plus juste où un monde où les hommes et les femmes seront plus heureux et plus honnêtes envers eux-mêmes. Et voici le pont de départ.
Le point de départ.
Nous devons élever nos filles autrement et aussi nos garçons.
Notre façon d'éduquer les garçons ne les aide pas du tout.
Nous enfermons les garçons dans une toute petite cage appelée les virilités. Nous leur apprenons qu'il ne faut pas avoir peur ni être faible. Nous leur demandons de cacher ce qu'ils sont vraiment, d'être des hommes durs.
Au lycée, quand un garçon et une fille décident de faire une sortie avec leur peu d'argent de poche, c'est toujours le garçon qui paye pour prouver sa virilité.
Et si nous expliquons aux garçons et aux filles qu'être fort et avoir de l'argent, ce sont des choses très différentes.
Et si au lieu de dire « c'est aux garçons de payer », nous disions « c'est aux plus riches de payer ». Bien sûr, les hommes ont dominé pendant des siècles. Ils sont donc souvent plus riches que les femmes. Mais si nous commençons à élever les enfants autrement, dans 50 ans, dans 100 ans, les garçons n'auront plus à prouver leur virilité avec leur argent. Le pire dans tout cela, c'est qu'en disant aux garçons qu'ils doivent être durs, nous les fragilisons. Nous fragilisons leur ego, leur opinion d'eux-mêmes. Quant aux filles, nos torts envers elles sont encore plus graves. Nous leur apprenons à se mettre au service de ces hommes à l'ego fragile.
Nous leur apprenons à se faire toutes petites et se diminuer.
Nous leur disons « Tu peux être ambitieuse, mais pas trop. Essaye de réussir dans la vie, mais pas trop. Sinon, tu pourrais faire de nombreux hommes. Et si dans ton couple, c'est toi qui gagnes le plus d'argent, ne le dis pas, surtout en public. »
Pourquoi le succès d'une femme serait-il une menace pour un homme ?
Une de mes amies m'a demandé un jour si je n'avais pas peur d'intimider les hommes. Non, je n'ai absolument pas peur. Et d'ailleurs, je ne suis pas intéressée par les hommes que j'intimide. Mais la question de cette amie m'a choquée. Comme je suis une fille, on s'attend à ce que j'ai envie de plaire aux hommes et de me marier. Le mariage peut être une bonne chose, une source de bonheur, d'amour et d'entraide.
Mais pourquoi apprenons-nous aux filles qu'il faut absolument se marier et pas aux garçons ?
Je connais une femme nigériane qui a vendu sa maison pour ne pas intimider l'homme qu'elle voulait épouser si elle était mariée. En réalité, elle est célibataire, mais elle souhaite, dit-elle, que ses collègues la respectent. Dans notre société, si une femme est toujours célibataire à un certain âge, c'est un immense échec personnel. Mais si un homme n'est toujours pas marié au même âge, c'est qu'il n'a pas encore réussi à faire son choix. Et c'est un peu facile de dire que les femmes pourraient refuser que les choses se passent comme ça. La réalité est bien plus complexe.
Nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes nous sommes tous imprégnés des idées de notre entourage et de notre époque.
Nous apprenons à nos filles à considérer les autres filles comme des concurrentes, pas dans le travail ou dans la réussite personnelle, mais pour susciter l'intérêt des hommes. En tant que parents, nous ne réagissons pas de la même manière face aux amours de nos filles et de nos garçons. Si nous avons des fils, cela ne nous gêne pas qu'ils aient des petites amies, mais que nos filles fréquentent des garçons, ah ça non! Ce qui ne nous empêche pas de vouloir qu'elles nous présentent le moment venu un mari idéal. Nous apprenons la honte à nos filles, croise les jambes, couvre-toi. Nous insinuons qu'elles sont coupables simplement parce qu'elles sont de sexe féminin. En grandissant, elles sont incapables d'exprimer leurs désirs ou de dire ce qu'elles pensent vraiment. Elles s'imposent le silence et pour elles, faire semblant est presque une forme d'art.
Le problème du genre, c'est qu'il nous dicte ce que nous devons être. Et tant que fille ou garçon, alors qu'il faudrait prendre en compte ce que nous sommes vraiment en tant que personne.
Imaginez comme nous serions heureux si nous étions libres d'être nous-mêmes, sans le poids des conventions.
Les garçons et les filles sont différents. Biologiquement, c'est incertain, mais dans nos habitudes, chaque jour, accentuons ces différences.
Prenez la cuisine, par exemple. Bien souvent, ce sont les femmes qui s'occupent des tâches à la maison, comme préparer le repas ou faire le ménage. Mais pourquoi? Parce que les femmes sont bonnes cuisinières de naissance? Ou bien parce qu'on leur a appris à faire que faire la cuisine était leur rôle? Si cuisiner était vraiment dans les gènes des femmes, alors pourquoi les plus grands chefs cuisiniers sont-ils des hommes? Ma grand-mère était une femme d'une intelligence exceptionnelle. Quand j'étais petite, je la regardais souvent en me demandant quelle aurait été sa vie si elle avait eu les mêmes chances qu'un homme. Aujourd'hui, les femmes ont plus de possibilités qu'à son époque. Mais nous avons encore du chemin à parcourir.
Pourquoi ne pas oublier un instant que nos enfants sont des filles ou des garçons? Et si nous nous posions avant toutes ces questions, qu'aimait-il faire, pourquoi sont-ils doués?
Je connais une famille avec un fils et une fille, tous les deux brillants à l'école. Quand le garçon a faim, les parents disent à leur fille « Va préparer des nouilles pour ton frère. »
La fille n'aime pas cuisiner, mais c'est une fille, alors c'est à elle de le faire. Pourquoi les parents n'ont-ils pas appris à leurs deux enfants à préparer des pâtes?
Cuisiner est une qualité fort utile pour un garçon aussi. Pourquoi devrait-il se reposer sur les autres? Je connais une femme qui a fait les mêmes études que son mari et qui a le même métier. À la fin d'une journée de travail, c'est elle qui s'occupe de presque toutes les tâches de la maison, comme dans la plupart des couples. Mais ce qui m'a le plus frappée, c'est qu'à chaque fois que son époux change les couches du bébé, elle le remercie.
Pourquoi ne trouve-t-elle pas normal et naturel que son mari s'occupe lui aussi de leurs enfants?
La première fois que j'ai donné un cours à des étudiants à l'université, j'étais angoissée. J'étais très bien préparée, mais je m'inquiétais au sujet de ma tenue. Quels vêtements devais-je porter pour être prise au sérieux?
Je savais, parce que j'étais une fille, j'allais devoir prouver que j'étais compétente. Et que ce serait plus difficile si j'étais trop féminine.
J'avais envie de mettre du brillant à lèvres et une jupe à la mode, mais je ne l'ai pas fait. J'ai choisi un tailleur très austère, très masculin et très laid. Je regrette d'avoir porté cet horrible tailleur ce jour-là. Si j'avais eu autant confiance en moi que maintenant, mes étudiants auraient profité d'un meilleur enseignement parce que j'aurais été plus à l'aise, plus moi-même et plus vraie.
Non, oui, j'ai décidé de ne plus cracher ma féminité et je veux que l'on me respecte dans cette féminité. Je le mérite.
Je suis féminine, je suis une femme féminine et heureuse. J'adore les chaussures à talons hauts. J'adore essayer différents rouges à lèvres. J'aime les compliments, aussi bien ceux des hommes que ceux des femmes, même si je dois avouer que je préfère ceux des femmes élégantes. Mais il m'arrive souvent de choisir des vêtements qui ne plaisent pas aux hommes ou qu'ils ne comprennent pas. Je les porte parce que je les aime bien, parce que je me sens bien dedans. Quand je prends une décision, je ne me soucie pas beaucoup de l'opinion que les hommes ont de moi.
C'est difficile de parler d'égalité de sexe, des sexes. C'est un sujet qui gêne ou même qui agace les gens. Les hommes comme les femmes n'aiment pas parler des genres et bien souvent ils minimisent le problème.
Changer ce qui existe depuis longtemps est souvent très dérangeant.
Nous sommes tous des féministes.
Des féministes. Pourquoi on me demande, pourquoi utilisez-vous le mot féministe? Pourquoi ne dites-vous pas que vous croyez aux droits de l'homme ou quelque chose comme ça? Parce que ce serait malhonnête. Bien sûr, le féminisme fait partie des droits de l'homme, mais cette expression est très large. Si nous parlons des droits de l'homme, nous ne parlons pas du problème très particulier de la place de la femme.
Nous passons sous silence que les femmes ont été exclues pendant des siècles. Nous nions que ce problème ne concerne pas les êtres humains dans leur ensemble, mais uniquement les femmes. Durant des siècles, hommes et femmes ont été séparés en deux groupes, dont l'un, celui des femmes, a été exclu et opprimé.
Pour changer les choses, nous devons en tenir compte. Et si certains hommes se sentent menacés par l'ordre même du féminisme, c'est, je pense, en raison de leur éducation. La manière dont ils ont été élevés fait qu'à chaque fois qu'ils n'ont pas été naturellement aux commandes, ils se sentent diminués et en insécurité. D'autres hommes pourraient répondre à tout ça. D'accord, c'est intéressant, mais je ne pense pas de cette manière. Moi, la question du genre, je ne me la pose jamais.
Peut-être est-ce une des raisons du problème, beaucoup d'hommes ne réfléchissent pas à cette question.
Beaucoup d'hommes ne réfléchissent pas à cette question. Ils n'en sont pas conscients. On va faire une petite pause musicale que j'aurais dû faire juste avant. Parce que là, au lieu de parler beaucoup à la fois, nous avons, à force de parler beaucoup à la fois, on a un peu mal à la gorge. Et je remercie Luca qui, à 7 ans, lit avec moi, partage cette lecture et d'un livre que je lui ai fait découvrir là, à l'instant.
Bon, ben, de rien.
Que tu voulais dire quelque chose?
De rien.
Nous allons continuer avec Sanseverino. Le boogie-boogie des tortues, et c'est le numéro 17.
Si ça vous a plu, c'est bien.
17. Vas-y, Luca, tu peux monter le curseur.
Œuvres sur les animaux, la danse du cygne, le chant des oiseaux, mais le boogie-boogie des tortues, ça, jamais! On dénigre souvent les rapaces, la lenteur des tortues sous leur carapace, on préfère le lion, gna gna gna, les girafes et les zèbres. font débat avec le bougalou. Ne comparez ça avec rien du tout. Je me tue à vous dire que vous avez tort. Je dis attention, les tortues, ça mord. Et le boogie boogie des tortues, ça tue. Boogie boogie, boogie 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 des tortues. 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 Quand elle marche, elle a l'air molle. Mais celle de cette histoire, je te promets qu'elle vole. Et quand je te dis que ça tue, je suis pas mort, mais j'adore. Ne le confondez pas avec le bougalou. Ne comparez ça avec rien du tout. Je me tue à vous dire que vous avez tort. Je te dis attention, les tortues, ça mord. Et le boogie boogie, les tortues, ben, ça tue. Boogie boogie, boogie boogie boogie, les tortues. Boogie boogie, boogie boogie boogie, les tortues.
Bon, on va peut-être arrêter ce livre parce qu'il est vraiment très très long, mais je trouve qu'il est super intéressant et elle explique. Elle est née en 1977 au Nigeria. À 19 ans, elle obtient une bourse pour étudier la communication et les sciences politiques à Philadelphie. Elle s'envole pour les États-Unis et décroche quelques années plus tard un master d'écriture créative dans une université de Baltimore. Elle écrit trois romans, L'hibiscus pourpre, L'autre moitié du soleil et Americana, tous lus par des milliers de personnes aujourd'hui. Chimamanda Ngozi Adichie vit entre le Nigeria et les États-Unis. Elle est reconnue comme une grande écrivaine partout dans le monde. Son engagement fort pour l'égalité des sexes et pour le droit des femmes fait d'elle une des voix actuelles du féminisme. Son discours « Nous sommes tous des féministes » a été prononcé en 2012 aux États-Unis. Il a été adapté ici spécialement pour la jeunesse et... Je vous en ai lu peut-être avec Luca les deux tiers. Et ça a été illustré par l'espagnol Leir Salaberria. Et c'est fait pour ouvrir les discussions dans les familles, dans les écoles, et semer dès à présent les graines du changement. Elle a aussi été l'autrice d'un manifeste pour une éducation féministe. Voilà, je m'arrête là. On doit se reposer la voix et nous allons encore mettre un dernier morceau de San Severino qui s'appelle le hip-hop des tortues.
Oh.
Avec mon gang de tortues, ça parle dans tous les sens. Ceux qui ne passent à la torture se débandent des meufs qui viennent squatter tes rêves tortues. Écarte-toi du chemin car si ta tortue dors plus, j'aurai jamais d'état d'âme de petite fille à grande dame. J'ai pas une tête à me faire des couettes, j'ai mal à crimo dans mon sac. Je m'appelle Camille, j'ai besoin de personne. Si je me cache dans le placard, c'est pas pour jouer à la madone, mais préparer mes armes pour le combat d'être une femme et être fière de l'être. Je veux pas de paillettes sur mon cartable à roulettes. Répondre aux ordres des personnes malhonnêtes. Et si je chante haut et fort, c'est pour faire taire ceux qui m'embêtent. Je suis peut-être petite, mais avec de grandes ambitions. Je veux faire changer les choses dès la cour de récréation. J'ai les dents qui grincent quand j'entends à la télé qu'il y a des injustices partout et nulle part l'égalité. Qui est au pouvoir? Qui vote les lois? Qui impose aux femmes leurs interdits et leurs droits? Qui gagne les procès et proclame le malentendu? Mais qui sort dans la rue et manifeste à moitié nu? Pouvoir aux femmes, gloire à la sororité. J'ai entendu dire qu'il fallait se lever, rendre justice aux victimes du patriarcat. Et si c'est la première fois que t'entends ce mot-là, bienvenue dans la lutte. Lève ton poing, ne te tais surtout pas, aimer les mots féminins. Ton avis a de l'importance autant que tes idées et tes peurs. Ici c'est la résistance des familles comme des sœurs.
Non.
Je veux pas de paillettes sur mon cartable à roulettes.
Non.
Répondre aux ordres des personnes malhonnêtes. Et si je chante haut et fort, c'est pour faire taire ceux qui m'embêtent.
Non.
C'est pour faire taire ceux qui m'embêtent. c'est pour faire taire ceux qui m'embêtent.
Des cailloux dans l'engrenage.
L'enfance, poil à gratter. Émission numéro 134 du 21 décembre 2022. C'est l'anniversaire des...
9 ans.
Des 9 ans de l'émission. Et là, c'est un petit peu un pot-pourri de différentes revues et albums pour enfants sur plein de sujets. Mais bon, le féminisme est quand même bien présent dans les émissions des Cailloux dans l'engrenage. Nous avons un rôle éducatif pour les garçons et pour les filles vraiment très important. Repassons à Biscotto. Et là, cette fois, c'est un autre numéro de Biscotto où j'ai choisi, c'est dans le numéro 107 de septembre de 2022, toujours ce journal pour les grands en plus marron, le Deg du Chili. C'est un article qui s'appelle, qui est dans la catégorie Vision d'animaux. Le Deg du Chili est un rongeur qui communique par tous les moyens, avec une longue queue, avec des vibrisses, c'est ce que nous appelons les moustaches, avec des grandes oreilles, des pattes avant qui ont 4 doigts et des pattes arrière qui ont 5 doigts. Et son corps a jusqu'à 20 cm. Il a de drôles de molaires. Ce petit rongeur timide qui vit en petits groupes ne se trouve qu'au Chili, d'où son nom. Les scientifiques l'appellent octodon degus. Octodon parce que ses molaires ont une forme de 8. Quelle drôle d'idée de tout de même nommer un animal selon la forme de ses dents. Du museau à la queue, il peut mesurer 35 cm et peser 300 grammes, ce qui est un poids important pour un rongeur. À 8 ans, dans le terrier, le Deg vit dans les Andes chiliennes. C'est un petit montagnard, il creuse des terriers complexes où il vit avec sa petite famille, formée souvent de 2 ou 3 mâles et 5 à 7 femelles. Il est très intelligent. Il vit environ 5 ans en se nourrissant d'herbes, de feuilles et de graines. Sa queue a, oui, jusqu'à 16 cm. Les mères s'occupent de tous les enfants du groupe sans faire de différence. Ils seront sevrés vers le 2e mois de vie, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus besoin de lait maternel. La maman Deg peut allaiter jusqu'à 12 petits.
Oh là là.
Travail d'équipe. Sa curiosité et son dynamisme le poussent à explorer tout son environnement, mais cette exploration se fait prudemment. Tandis que les plus téméraires avancent en terrain inconnu, les autres restent aux aguets, prêts à donner l'alerte pour que tout le monde puisse se mettre rapidement à l'abri dans les terriers. Pour creuser, ils s'entraident également en faisant une chaîne afin d'évacuer la terre que celui qui se trouve devant a déblayé. De même, l'éducation des petits se prolonge plus longtemps que chez d'autres rongeurs, ce qui leur permet d'avoir un ordre social très complexe et hiérarchique. Qui est le chef? Celui qui dirige le groupe est le mâle qui aurait édifié le plus haut monticule devant l'entrée du terrier familial. Mais si un ou une autre Deg détruit ce monticule, alors la hiérarchie s'en trouve bousculée et le nouveau chef sera celui qui a le nouveau tas le plus haut. Animal de compagnie, sa jolie petite frimousse en fait depuis quelques années un animal de compagnie à la mode. Malgré son caractère affectueux et timide, il est difficile à gérer car il a besoin de vivre en groupe. Aussi, les mâles sont bagarreurs et parfois de façon violente, ce qui peut même mener à la mort d'un des combattants.
Sa vie sociale complexe nécessite beaucoup de communication entre des individus lors de leurs gestes et postures.
Exprime
humour, douleur, maladie, prédit prédisposition à l'accouplement et ils ont aussi un langage vocal assez riche, une quinzaine de types de vocalisation et reconnaissent les voix de chaque membre de la famille.
Voilà, j'en ai fini avec le DEC du Chili, qui était un article, il y a régulièrement comme ça, des articles sur des animaux, dans Biscotto. Et un des sujets que j'essaye de valoriser dans cette émission, c'est aussi la réflexion autour du pouvoir ainsi que l'entraide. Luca a quelque chose à dire.
C'est juste que, voilà, donc dans le DEC du Chili, comme on a parlé tout à l'heure dans le livre, c'est tout le temps l'homme qui déjà va se battre et va être le chef de
sa famille.
Oui, de sa famille. C'est tout le temps le mâle. Pourquoi pas les femmes,
pas les femelles chez les animaux, les femmes, ouais, chez les hommes. Et oui, voilà, c'est une question que se pose Luca en lisant cet article de Biscotto. Pourquoi ? En effet, nous allons maintenant passer à un autre disque qui s'appelle « Fille ou garçon ?» Des chansons pour se poser des questions. Ça fait une belle transition. Les deux, Hélène Réveillard, illustration de Florence Sabatier. C'est un livre disque où les, alors, soit les chansons sont de Hélène Réveillard, soit c'est le texte qui est de Marion Rouxin. C'est pas clair. C'est aux éditions IG et c'est paru en 2022, tout à fait récemment. Et je vais vous passer d'abord un premier titre.
On jouera à la marelle, au loup-garou, loup perché, à cache-cache, à la gamelle ou à la corde à sauter, à l'élastique et aux billes, aux gendarmes et aux voleurs, à l'épervier et aux quilles, à jacadi, au facteur. On jouera à la tomate et à chat ou au béret et au jeu de la savate, à la balle aux prisonniers. On fera un Colin Maillard ou un petit ni oui ni non, un jeu de mime, jeu de hasard et on chantera des chansons. On aura chaud, on aura soif, on sera content, on rigolera. Filles et garçons, prenez donc place, on a le temps de jouer. Et on sortira nos cartes, Pokémon, super-héros, toutes nos toupies, nos popartes, nos puzzles et nos. Et on fera du vélo, de la course et du relais, de la balançoire, des anneaux, du saute-mouton, saut de haie. On aura chaud, on aura soif, on sera content, on rigolera. Filles et garçons, prenez donc place, on a le temps de jouer. On pourrait même faire des maths en balançant quelques dés, poésie et SVT, en regardant les fleurs pousser. On travaillerait dans l'air, dans la mousse et le feuillage. On ferait de l'aquarelle en observant les nuages. On aura chaud, on aura soif, on sera content, on rigolera. Filles et garçons, prenez donc place, on a le temps de jouer. On aura chaud, on aura soif, on sera content, on rigolera. Filles et garçons, prenez donc place, on a le temps de jouer.
Alors, c'est un livre-disque illustré avec 11 portraits chantés qui posent la question des différences entre les sexes et de l'influence du monde adulte sur les enfants dans leur construction. En suivant l'itinéraire d'une petite fille qui s'appelle Camille et qui a un corps de garçon, en abordant le thème de l'homoparentalité ou en s'interrogeant sur les jeux dans la cour de récré, les autrices nous emportent dans un univers pétillant et un peu décalé qui ravit les yeux comme les oreilles, tout en nous faisant tous réfléchir sur notre identité. Chaque chanson propose également une rubrique philosophique pour accompagner la réflexion sur l'égalité filles-garçons et la thématique du genre pour lutter contre les stéréotypes. Les filles et les garçons sont-ils libres de jouer à ce qu'ils veulent? Les garçons peuvent-ils mettre des barrettes et des paillettes? Les filles peuvent-elles aller vite, sauter, courir, prendre des risques? Ça veut dire quoi, être soi-même? C'est un livre qui vaut 18 euros. Il y a même un livret d'accompagnement téléchargeable téléchargeable pour les enseignants. Et alors donc, sur cette chanson, qu'est-ce qu'on fera à la récré? Il y a en face, alors il y a des illustrations très fraîches. Le petit coin philo, est-ce que tu veux lire les questions du petit coin philo,
oui,
Lucas?
Oui, oui, oui. Donc, le petit coin philo. Tous les enfants ont-ils le droit de jouer? Les filles et les garçons peuvent-ils jouer ensemble? Sont-ils libres de jouer ce qu'ils veulent? Pourquoi est-ce important de s'amuser?
Voici les questions auxquelles le livre ne répond pas, mais les questions sont à débattre en famille, en classe. Eh bien, on va continuer. Je ne vais pas tous les passer. Nous allons continuer avec, par exemple, sur sa tête.
C'est parti.
Non, le 3.
Sur sa tête, il y a des couettes, des élastiques, des barrettes, un nid d'oiseau dans un coin, des plumes, des voiles de bateau. Sur sa tête, il y a des fêtes, des rubans et des paillettes, des chapeaux de magicien, de la musique à gogo. On trouve des trucs incroyables, du vent et des grains de sable. La mer n'est jamais très loin, on trouve des trucs magnifiques qui s'envolent et qui s'agitent, des notes de musiciens et des cordes de violon. Garçon aux cheveux longs, garçon aux cheveux longs. Sur sa tête, il y a des tresses, des couleurs dans tous les sens, des départs vers les vacances, des colliers de coquillages. Sur sa tête, il y a des traces de l'écume du bord de plage, de dessins dans les nuages, de la joie en avalanche. On trouve des trucs incroyables, du vent et des grains de sable. La mer n'est jamais très loin, on trouve des trucs magnifiques qui s'envolent et qui s'agitent, des notes de musiciens et des cordes de violon. Garçon aux cheveux longs, garçon aux cheveux longs. Sur sa tête, il y a des rires, des éclats et des chansons, des danses de papillons et des aurores boréales. Sur sa tête, il y a des frasques, des tempêtes et des bourrasques, des ouragans, des typhons et des envolées de toile. On trouve des trucs incroyables, du vent et des grains de sable. La mer n'est jamais très loin, on trouve des trucs magnifiques qui s'envolent et qui s'agitent, des notes de musiciens et des cordes de violon. Garçon aux cheveux longs, garçon aux cheveux longs. Du vent et des grains de sable, la mer n'est jamais très loin. On trouve des trucs magnifiques qui s'envolent et qui s'agitent, des notes de musiciens et des cordes de violon. Garçon aux cheveux longs, garçon aux cheveux longs.
Donc c'était Marion Rouxin. Et je vais faire lire à Luca les questions du petit coin philo. Oui.
Le petit coin philo. Est-ce qu'il y a... Alors, est-ce qu'il y a des cheveux de filles et des cheveux des garçons? Les garçons peuvent-ils mettre des barres et des paillettes?
Des barrettes?
Des barrettes.
Et des paillettes,
Des paillettes, oui. Est-ce que c'est facile de faire quelque chose dont les autres n'ont pas l'habitude? Notre apparence, dit-elle, qui l'on est?
Ce sont des grandes questions. Je trouve qu'il est pas mal ce
livre.
Ce livre. Qu'est-ce que tu en penses, Luca?
Les chansons, elles sont pas mal. Hein. Oui, les petites questions, elles sont bien. Oui, ça va.
Est-ce que ça te donne envie de réfléchir?
De réfléchir? Ah oui, de les dire.
Oui, d'essayer d'y répondre par toi-même.
Oui.
Alors, eh bien, nous allons continuer avec la chanson numéro 4 qui s'appelle « Et pourquoi pas ?»
Et pourquoi pas ?
Il y a des choses réservées aux filles et d'autres pour les garçons.
Je veux que tu m'achètes des baskets à paillettes et toutes roses. Bonbon, car moi j'adore le rose et les paillettes, même si je suis un garçon. Et pourquoi pas ? Papa, et pourquoi non ? Maman, et pourquoi non? Papa, et pourquoi pas? Maman, je veux que tu m'achètes les baskets qui courent vite et pas celles qui brillent, car moi j'adore gagner et courir vite, même si je suis une fille. Et pourquoi pas? Papa, et pourquoi non? Maman, et pourquoi non? Papa, et pourquoi pas? Maman, je veux que tu m'achètes un couffin, une poussette et dedans un poupon, car moi j'adore les bébés, les poussettes, même si je suis un garçon. Et pourquoi pas, papa, et pourquoi non? Maman, et pourquoi non? Papa, et pourquoi pas, maman? Boxe, aux courses, automobile, car moi j'adore le foot, les courses, la boxe, même si je suis une fille. Et pourquoi pas, papa, et pourquoi non? Maman, et pourquoi non? Papa, et pourquoi pas? Maman, et pourquoi pas? Papa, et pourquoi non? Maman, et pourquoi non? Papa, et pourquoi pas? Maman.
Alors, le petit coin philo. Est-ce qu'il y a des choses réservées aux filles et d'autres aux garçons? C'est où d'où vient cette règle? Peut-on aimer ce qu'on peut-on aimer ce que l'on veut? Ça veut dire quoi, être soi-même?
Et voilà, je laisse aussi découvrir à Luca. Je ne lui avais pas du tout présenté avant et c'est écrit bien petit. C'est pas très difficile, pas très facile à lire pour lui. Nous allons continuer avec
la dernière chanson.
Une autre chanson.
Pas pareil.
Eh bien oui, pourquoi pas, pas pareil, d'accord.
Alors c'est bon.
C'est celle d'après. Tu peux, parce qu'en plus je le mets aux manettes.
Donc.
Vas-y.
1, 2, 3. Ce qui est bien avec la différence. Qu'est-ce que ça nous fait sentir de savoir qu'on est tous un peu pareils?
Pourquoi le fait qu'on ne se ressemble pas, ça te pose un problème? Dis-moi, on est pourtant tous différents, on n'est tous pas pareils déjà. On n'a pas tous le même visage, on n'a pas tous le même corps, la même peau, ni le même âge, et on n'est pas toujours d'accord, tu sais. Si on était tous identiques, ça ne serait pas marrant.
déjà. Ça ne serait vraiment pas pratique pour reconnaître les gens. Et puis, c'est beaucoup mieux la différence. Ça donne envie de découvrir. Ça met du neuf dans l'existence. Ça crée de la surprise et des rires. Et moi, ben si on était tous les mêmes, c'est sûr que j'aimerais pas. C'est beau, la multiplicité des gènes, la tessiture des voix. C'est mieux, on n'a pas tous les mêmes goûts. On n'a pas tous les mêmes mains, les mêmes bouches, les mêmes joues pour les bisous et les câlins. Pourquoi le fait qu'on soit si différent, ça te pose un problème? Pourtant, on est tous un peu ressemblants, tous un petit peu pareils. C'est vrai, si tu regardes vraiment bien, on fait tous le même voyage. On traverse les mêmes matins, les mêmes soleils, les mêmes orages. Tu vois, si tu regardes un peu oblique, ça fait bouger les choses. Et moi, je trouverais ça magnifique que doucement on ose se voir. Face à moi, face à toi, à lui, face à elle, face à eux aussi, comme face à un miroir. Ensemble, regarde, on se ressemble. Se voir face à moi, face à toi, à lui, face à elle, face à eux aussi comme face à un miroir. Ensemble, regarde, on se ressemble.
Donc, le petit coin philo, est-ce qu'on est plutôt pareil ou différent des autres? Pourrait-on vivre si on était complètement seul? Qu'est-ce qui est bien dans la différence? Pourquoi c'est parfois difficile la différence? Qu'est-ce que ça nous fait sentir de savoir qu'on est tous un peu pareil?
Voilà, nous allons continuer avec ce livre et ses chansons. Et tout à l'heure, là, nous allons mettre le numéro 7. Une chanson assez marrante. Mais d'abord, n'oublions
qui
pas...
Qui s'appelle Princesse Prout Prout. C'est pour ça qu'elle est un peu marrante, effectivement.
Alors, attends, pas tout de suite.
Oui,
parce que
pas tout de suite.
J'oubliais de dire, parce que là, c'est Lucas que je mets aux manettes. J'oubliais de dire que ces livres, nous pouvons les commander à la librairie Publico, la librairie... aux trois métros, la librairie qui se trouve 145 rue Amelot, donc métro Oberkampf-Fille du Calvaire ou République. Elle est ouverte tous les jours, sauf le lundi de 13h à 19h. Mais attention, il va y avoir très peu d'animation la semaine prochaine. Elle sera fermée plus tôt, les 24 décembre et puis le 31 décembre. Et elle sera fermée après le 31 décembre pendant toute la première semaine de janvier pour inventaire. Nous sommes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité et sans nationalisme. Et maintenant, nous allons encore écouter toujours ce disque de
Princesse
Marion Rouxin, fille ou garçon, point d'interrogation. Et là, ça sera
Princesse Prout Prout.
Vas-y, Lucas.
Allez.
Être tout et son contraire. Surtout péter. Elle pète beaucoup et si souvent.
que ça l'inquiète par moments. Et ses proutes sont tellement forts qu'on les entend même au dehors. Des proutes comme des explosions qui font trembler toute la maison. Des proutes joyeux et concentrés qui nous font vite boucher le nez. Elle est jolie, bien habillée, elle parle souvent d'une voix douce. Toujours parfaitement coiffée, elle aime le savon et la mousse. Elle sautille, elle est légère, elle virevolte comme le vent. Elle est parfois un peu sévère, elle fait sa chef par moments. Elle aime le rose et ceux qui brillent, elle aime le mauve et le doré. Elle aime la glace à la vanille, mais elle aime surtout péter. Elle pète beaucoup et si souvent que ça l'inquiète par moments. Et ses proutes sont tellement forts qu'on les entend même au dehors. Des proutes comme des explosions qui font trembler toute la maison. Des proutes joyeux et concentrés qui nous font vite boucher le nez. Des proutes ricochets rigolos qui pétaradent comme des motos. Des proutes élégants mitraillettes, feux d'artifice dans les toilettes. Des proutes énormes et démentielles qui font pousser des arcs-en-ciel. Des proutes superbes, prodigieux, qui nous font presque croire en Dieu. Des proutes si gros et si costauds qui font s'enfuir tous les oiseaux. Des proutes si gras, si grands, si forts que tous les chiens hurlent à la mort. Des proutes incroyables, incroyables qui nous font cacher sous la table. Des proutes irradiants et radieux qui tuent le Covid en moins.
Le petit coin philo, pourquoi Princesse Prout-Prout nous fait-elle rire? Peut-on être tout et son contraire? Doit-on respecter les codes? Les règles sont-elles les mêmes pour les filles et les garçons?
Voilà, c'était assez drôle cette chanson sur les proutes. Tu veux dire quelque chose sur la chanson, Luca?
C'est marrant, tout simplement.
C'est marrant, tout simplement, oui.
Eh bien, je voulais dire un truc, parce que c'est vraiment bizarre, parce que... c'est pas bizarre, c'est comme tout le monde, quoi. Tout le monde est parfois est belle, mais après, elle est belle, elle est bien habillée, elle fait pas de bêtises, et à un moment, ce qu'elle aime mieux faire, en gros, elle veut être propre et tout ce qu'elle veut faire, mais sa chose préférée, c'est les proutes. Alors c'est bizarre quand même, hein.
Et alors pourquoi, quand on est belle et quand on est une fille bien sous toutes les apparences, on n'aurait pas le droit de péter?
Non, mais c'est pas qu'on n'a pas le droit de péter, c'est que ça serait bizarre. Genre, par exemple, je mets du parfum, prout, 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 après on pète. Ça serait bizarre quand même.
Ah bah hein. Oui, c'est pas le même parfum. Voilà, il n'y a pas que les garçons qui ont le droit de péter, morale de l'histoire.
Mais non.
Oui, moi j'avoue.
On a bien, tout le monde a pété dans sa vie.
J'adore cette chanson parce que sous son air angélique, eh bien, elle dit des choses, elle affirme.
Oui, mais elle pète.
La libération passe aussi par des petites choses comme ça.
Donc on va passer à le vélo fusée, la chanson 9.
Que c'est une chanson
de rap?
C'est un rap, oui.
Ouais, trop bien, ouais.
Non, 9. 9. Voilà, je laisse Luca aux manettes.
Elle fonce, elle file, elle vole à toute allure vers l'horizon. Elle fuse, elle fonce, elle file, elle vole à tout à l'heure. Elle crie lison. Car là, sur son vélo fusée, elle fuse, elle fonce jusqu'à la lune, s'enflamme jusqu'à décoller. Elle transperce nuages et brumes. Car là, sur son vélo volant, jamais les jambes en compote. Elle défie l'espace et le temps où elle se transforme en cosmonaute. Fonce, fonce,
fonce, fonce. Elle fuse, elle fonce, elle file, elle vole à toute allure vers l'horizon. Elle fuse, elle fonce, elle file, elle vole à toute allure. Elle crie lison car là, sur son vélo violet, elle voit héroïne sur pédale s'envoler portes et volets sur les chemins qu'elle dévale. Car là, sur son vélo magique, vélo à voile, vélo merveille, jamais elle ne perd, ne panique, elle vise toujours le soleil. Fonce, 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 fonce. Elle fuse, elle fonce, elle file, elle vole à toute allure vers l'horizon. Elle fuse, elle fonce, elle file, elle vole à toute allure. Elle crie lison alors, elle reviendra plus tard sur son vélo fusée volant. Après son voyage au hasard flamand sur le souffle du vent, vêtue de jupes de dentelle, nœud sur la tête, cheveux qui dansent, c'est le monde qui danse avec elle au rythme des roues qui avancent. Fonce, 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 fonce. Elle file, elle vole à toute allure vers l'horizon. Elle fuse, elle fonce, elle file, elle vole à toute allure. Elle crie lison. Fonce, fonce.
Coin philo. Les filles et les garçons font-ils du vélo de la même manière? Les filles peuvent-elles aller vite, sauter, courir, prendre des risques? Faut-il mettre certaines tenues pour faire ça? Pour quelles raisons les filles doivent-elles imiter les garçons pour faire des activités où il y a plus de garçons? Voilà. Maintenant, malheureusement, ce disque va se terminer là.
Oui.
Et bientôt l'émission, d'ailleurs.
Exactement. Il y a d'autres chansons que je passerai dans l'émission que nous concoctons, que nous allons concocter à la rentrée avec Hélène de Fablivre. On a prévu d'autres émissions communes, comme on avait fait il y a 2 ans ou 2 ans et demi, enfin, je ne sais plus. Alors, les instruments du spectacle, il y a l'ukulélé, le banjo, la guitare, les cloches, les percussions corporelles.
Les percussions corporelles?
C'est taper sur ses genoux, sur ses cuisses, avec ses pieds, avec ses mains, ou faire claquer ses doigts.
Et les cloches.
Et les cloches. Ah oui, il y avait aussi les cloches. Ouais. Donc, ce disque de Marion Rouxin, fille ou garçon, est très, très varié au niveau de...
Attends, il y avait quoi d'autre? Il y a le ukulélé, les trucs de doigts, la cloche et...
La guitare, le banjo et...
Ah oui, le banjo et la guitare. Oui, c'est bon. Voilà. Hein.
Un très beau disque. L'émission est terminée. Place maintenant au Club Ferré. Mais attendez, on a encore quelques minutes pour annoncer...
Ah, c'est bien.
La semaine prochaine, il y aura une émission exceptionnelle. Ça sera l'émission... avec Isabelle Caillard qui a participé vivement et qui continue à participer au label Enfance et Musique et qui a été l'une des protagonistes des Petits Loups du Jazz. Et les Petits Loups du Jazz, eh bien, nous les aimons beaucoup. Je me rends compte que j'ai passé les Petits Loups du Jazz très longtemps, mais la première année. Mais écoutez bien ça.
Et juste...
Attends.
voilà donc, nous allons avoir Isabelle Caillard la semaine prochaine pour une émission exceptionnelle. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, puis l'émission de rentrée en janvier, Les cailloux dans l'engrenage, ça sera avec les 10 ans de Piscotto. Ils vont venir d'Angoulême exprès pour fêter leurs 10 ans dans notre émission sur Radio Libertaire. Eh bien, j'en suis très fière. Et maintenant, place à Anne Sylvestre.
Anne Sylvestre.
Au revoir.
Au revoir. On est fatigués, nous. Hein. On a mal à la gorge de trop parler. Au revoir.
Laissez les enfants pleurer, ne tarissez pas leurs larmes. Elle lave, elle désarme ce qui les fait chavirer. Laissez les enfants verser ces ruisseaux qui les apaisent et s'en vont noyer les braises de leurs chagrins insensés. Laissez-les. Empêcher que l'on réprime cette rosée légitime. Ils ont des fleurs arrosées. Laissez les enfants pleurer avant qu'on les abîme. Laissez les enfants rêver, ne les cassez pas d'avance. Donnez-leur au moins la chance d'apprendre un jour à voler. Laissez les enfants choisir des chemins qui vous dépassent. N'effacez jamais leurs traces, vous les verrez revenir. Laissez-les. Ne souffrez pas qu'on dédaigne la lumière qui les baigne. Ils ont des richesses à donner. Laissez les enfants rêver avant qu'on les éteigne. Laissez les enfants grandir, ne renforcez pas les cages, ne craignez pas les orages, ni les torrents à franchir. Laissez les enfants gagner le droit d'étendre leurs ailes dans la lumière nouvelle d'une vie à inventer. Laissez-les. Ils vont s'envoler ensemble, un même ciel les rassemble. Ils ont des sommets à gravir. Laissez les enfants grandir avant qu'ils nous ressemblent. Laissez-les.
Et nous avons oublié quelque chose de très important, de vous souhaiter...
Bonne fin d'année.
Et joyeux. Ouais. Et bon nouvel an. Allez, au revoir.
Au revoir.